Regarde, Betty, une pâquerette.
C'est un bon endroit pour nous installer.
La pâquerette est une plante très rustique formant des touffes denses. Espèce commune, commune, tidicline à calcicline, elle fleurit toute l'année, mais surtout de mars à novembre.
Aura des pâquerettes.
Toutes ces herbes folles.
Engrais parfaitement naturel.
On va arroser ça.
Mais non, les pâquerettes ne chantent pas, même si elles sont folles.
Aura des pâquerettes. L'émission qui prend de la hauteur.
Le rendez-vous mensuel d'Aura FM, la Fédération des radios associatives d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Aura des pâquerettes.
Parcs naturels régionaux sont répartis sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Territoires ruraux reconnus pour leur forte valeur patrimoniale et paysagère, ils ont parmi leurs missions la conciliation des activités humaines et le développement territorial avec la protection et la valorisation de leur patrimoine culturel et naturel. Pour découvrir concrètement ces missions, Radio Alto vous emmène dans le parc naturel régional du Massif des Bauges en Savoie, où nous parlerons biodiversité et patrimoine immatériel alpin.
Aura des pâquerettes.
Oh, les jolies fleurs !
L'émission qui prend de la hauteur.
Engrais parfaitement naturel.
Pour cette première partie, prenez vos jumelles, votre carnet de notes et vos oreilles. Nous partons à la rencontre du hibou grand-duc, l'un des plus grands rapaces européens. Pourchassé par les hommes, il fait aujourd'hui sa réapparition dans de nombreux territoires. Dans les Bauges, le parc a proposé de lancer une campagne de science participative autour de cette espèce.
Brigitte, chevalier, j'habite Les Chaux, comme je fais partie de la LPO, intéressée par les oiseaux depuis très longtemps. Et voilà, et de savoir qu'il y a un site tout près de chez nous, sur le hibou grand-duc, me réjouit et du coup envie de participer à, voilà, au suivi et de pouvoir le voir, revoir, parce que je l'ai vu une seule fois. La dernière fois, la compote, on l'a très bien entendue et on l'a vu s'envoler. Donc peut-être ce soir aussi.
Ce soir-là, des agents du parc naturel régional du Massif des Bauges, des spécialistes de la LPO et des naturalistes passionnés s'enfoncent dans le massif. Leur mission ? Prospecter les falaises pour repérer l'un des habitants les plus secrets de ce territoire, le Grand-Duc d'Europe. Une démarche de science participative essentielle pour le parc, qui cherche à identifier les sites de nidification de ce grand rapace, même là où sa présence n'est pas encore confirmée.
Déjà bonjour à tous, moi c'est Baptiste, je travaille à la LPO et puis du coup l'objectif de la sortie d'aujourd'hui pour moi c'est vraiment de découvrir comment on prospecte pour découvrir des sites où il y aurait le Grand-Duc d'Europe si on ne sait pas s'il est présent.
Les indices sont anciens donc on a besoin d'actualiser ça et puis comme le disait Baptiste, c'est surtout pour vous apprendre, vous montrer comment on fait pour essayer de détecter la présence du hibou. Et comment faire pour transmettre la donnée si vous en avez.
Tu peux me dire ce que tu cherches ?
Le Grand-Duc.
Tu regardes quoi ?
Je regarde par rapport à ce qu'il dit, les endroits où il peut y avoir des promontoires ou des fientes.
Et alors
pour l'instant, non. Ce serait trop beau.
Richard Cousin, je suis chargé de mission milieu naturel et expertise naturaliste au PNR du Massif des Bauges. Alors on a décidé de faire un focus sur le hibou grand-duc en 2026 parce qu'il fait partie de la stratégie biodiversité du parc. C'est un document de synthèse qui permet de faire un état des lieux de la faune et de la flore et des milieux naturels sur le parc. Et de faire ressortir les espèces qui sont prioritaires. Donc les espèces prioritaires, c'est celles qui sont les plus fragiles, qu'on se doit de protéger en priorité. Et bien, il se trouve que le Grand-Duc fait partie de ces espèces. On souhaitait faire participer le public. On voulait vraiment que cette année Grand-Duc soit une année où on organise un suivi participatif. C'est un double intérêt. Le premier, c'est que plus on est nombreux, plus on a de force d'observation. Puis l'autre idée, c'est de faire participer les gens, dans le sens où on sait que quand les gens savent ce qu'il y a à côté de chez eux, ils savent qu'il y a des espèces rares, intéressantes, protégées dans le massif, eh bien, ils sont plus à même de vouloir les protéger et du coup de nous accompagner dans notre stratégie biodiversité qui vise à protéger ces espèces.
Informant les locaux et les randonneurs à transmettre leurs observations via des applications, le parc démultiplie ses forces sur le terrain. L'enjeu est aussi pédagogique, sensibiliser les citoyens à la richesse qui les entoure pour qu'ils en deviennent les premiers gardiens. Ces données permettront au parc de concilier les activités humaines, comme l'escalade ou le parapente, avec la tranquillité indispensable aux rapaces.
Moi, c'est Baptiste Douteau, je travaille à la LPO Auvergne-Rhône-Alpes.
Moi, je participe depuis plusieurs années à transmettre des observations comme ça. C'est le cas de plusieurs milliers d'observateurs, probablement à l'échelle des deux départements de la Savoie. Je continue à former les gens à participer, à transmettre leurs observations. Ça va nous permettre de récolter beaucoup plus d'informations.
J'ai appris comment transmettre des informations sur les différents sites Faune Aura ou Faune France, puis l'application Naturaliste sur le téléphone qui permet de saisir les observations.
Quand on est un observateur tout seul, peut-être qu'on est compétent, mais qu'on ne pourra jamais être partout en même temps. Alors que si on arrive à avoir énormément d'observateurs bien répartis sur l'ensemble du territoire, on a beaucoup plus de chances d'avoir des observations qui nous remontent. C'est un peu finalement les sciences participatives qu'il y a derrière comme idée.
En fait, l'idée c'était finalement d'autonomiser les gens qui étaient intéressés et leur permettre à eux d'être autonomes, d'aller sur les sites et puis essayer de détecter la présence et transmettre les données dans le cadre d'un suivi participatif.
Les suivis menés par le parc font état de 10 à 15 couples actuellement installés sur le territoire. Un chiffre en progression, mais qui reste précaire face au développement des loisirs de pleine nature.
Le hibou rendu, il a disparu ou quasiment disparu du massif au siècle dernier. Comme partout en France, il a été victime de persécutions, comme de nombreux rapaces d'ailleurs. Et de ce fait, il fait maintenant son retour. Notre travail, c'est d'accompagner ce retour-là. Parce qu'il a disparu, son habitat est toujours là. Son habitat, c'est des parois rocheuses. Mais en quelques décennies, finalement, ces parois rocheuses se sont vues occupées par l'humain, qui a développé des activités de pleine nature comme l'escalade ou comme le parapente. Et de ce fait, le Grand-Duc, maintenant, peut être perturbé par ces nouvelles activités.
Alors moi, je suis impressionné par... Je ne sais pas si c'est l'aura du Grand-Duc ou si c'est autre chose, mais à chaque fois qu'on a essayé de réaliser un événement, il y a toujours eu énormément de participants. Ce soir, on était à nouveau une bonne vingtaine. Donc on sent qu'il y a un engouement sur cette espèce et ça c'est vachement agréable. Je pense qu'on sent aussi finalement un intérêt pour la nature et les habitants de la nature localement par les habitants du territoire. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie parce que je pense qu'on a cet enjeu-là de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul sur un territoire, qu'il y a d'autres espèces, d'autres individus qui vivent, et du coup d'avoir un égard pour ces êtres-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très positif actuellement.
Partir à l'écoute de la faune sauvage avec les équipes du parc, c'est aussi accepter les surprises de la nature. Ce soir-là, le Grand-Duc est resté silencieux. Mais pour les observateurs, la magie a opéré autrement.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je voudrais un petit peu prospecter les environs d'où j'habite, savoir s'il y a des animaux, lesquels, comment est-ce qu'on fait pour les entendre. Être conscient de tout ce qu'on peut entendre, voir. Pour mieux connaître mon voisinage dans la faune. Et la dernière fois, on était fixé sur le Grand-Duc, mais ça correspond aussi à la période du rude du renard, Et on a eu une sérénade, mais alors vraiment Roméo et Juliette chez les renards, quelque chose de super, mais qui a duré pendant, bah, je ne sais pas, une heure, quoi. C'était, et puis on les voyait courir, non, c'était super, c'était vraiment très très bien. Donc être prêt à tout regarder dans tous les sens, même les paysages, quoi.
Protéger la faune sauvage, c'est aussi faire dialoguer des mondes qui se croisent sans toujours se comprendre. Dans le massif, le parc des Bauges crée un pont entre les acteurs de la nature et les usagers de la montagne.
Alors le travail en partenariat avec le parc, il se fait sur énormément d'espèces depuis plusieurs années, et principalement sur l'aigle royal et le faucon pèlerin. Parce qu'en fait, le parc a une capacité de concilier et de mélanger des mondes qui sont différents. Typiquement, en tant qu'association de protection de l'environnement, la LPO, on est considéré peut-être comme des gens qui pensent plus aux oiseaux en premier qu'à d'autres choses. Et typiquement, quand on a voulu discuter avec d'autres activités, c'est vrai que d'avoir un acteur comme le parc, qui est un acteur qui est peut-être plus neutre, qui présente aussi la volonté des collectivités locales, donc d'une politique qu'on voudrait mettre en place à l'échelle du territoire du parc, parce que le parc c'est quand même un territoire d'un projet. Ça permet de mettre tout le monde autour d'une table et de discuter pour envisager qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour la protection des espèces.
Merci beaucoup.
Et du coup, je trouve ça vraiment très très chouette, toutes ces actions faites avec les habitants locaux, et donner cette possibilité aussi de découvrir et de participer en plus, pour aussi apprendre en fait. Et ça, c'est quand même chouette. Thank you.
Des pâquerettes.
Le rendez-vous mensuel d'Aura FM, la Fédération des radios associatives d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Lorsque l'on parle de parcs naturels régionaux, on pense biodiversité, comme cette campagne menée sur le Hibou Grand-Duc. Mais les actions des parcs ne se limitent pas au seul domaine de la préservation du vivant ou des patrimoines emblématiques. Moins connu, le patrimoine immatériel englobe des pratiques et savoirs dont chacun hérite en commun. Si on devait illustrer ça à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on pourrait parler de la fête des laboureurs de la Drôme, de la boule lyonnaise, de la dentelle au fuseau du puits ou des savoirs des jardins potagers. La question est de savoir comment ces pratiques ancestrales ont impacté les sociétés que nous sommes aujourd'hui. Nous vous proposons de suivre le parc des Bauges dans l'inventaire de ce patrimoine commun à tout l'arc alpin.
Ça, c'est du tilleul qu'on a fait sécher.
Tu écrases, mais en pas plus. Ah.
Écoute, si je lui en donne pour faire deux tasses, ça vaut pas le coup, il faut qu'on partage. Bon, bah,
tu ne laisses pas notre sac plus grand.
Donc, c'est calmant le tilleul, c'est bon à boire. Ça calme ? On dit bien que le tilleul, c'est calmant, oui.
Suzanne et Louis Petit-Barra à Haillon-le-Vieux, juillet 2016.
Mon arrière-grand-mère, elle ramassait des fleurs toute l'année. Et puis elle les faisait sécher, puis elle se faisait des tisanes tout l'hiver.
Il faudrait que je trouve un sac un peu plus grand pour Monique. Et ça, c'est de la camomille, les petites choses là-bas.
Dans le massif des Bauges, le patrimoine ne se visite pas seulement avec les yeux. Il se goûte aussi, se déguste et se transmet de génération en génération. Le patrimoine alimentaire alpin est un lien vivant entre la terre et l'assiette.
Sylvia Alla, chargée de mission patrimoine culturel au parc naturel et régional du Massif des Bauges. Le patrimoine alimentaire alpin est un ensemble immense de savoir-faire, de pratiques vivantes, de traditions, de fêtes, de rituels qui sont portés par des acteurs dans les Alpes, donc des associations, des agriculteurs, des artisans, des restaurateurs, mais aussi des politiques et des communautés. Et c'est des personnes qui font vivre ce patrimoine. C'est un patrimoine qui se transmet de génération en génération et qui permet de garder ces territoires vivants.
Là,
c'est une petite soupe avec une bonne basse courge. Quelques navets, quelques patates, carottes.
Pommes chauds, vin chaud et vente en direct du producteur chez Simon à Chénat-les-Frasses.
Trois poireaux, du sel, du poivre, quatre épices, puis on verra ce que ça donne. On laisse les gens goûter.
Comme, ok. Et le pomme chaud,
c'est un collègue maraîcher qui est sur Cusy, là, Olivier, qui avait du jus de pomme l'année dernière. Et puis du coup, il voulait le passer parce qu'il était un peu trouble. Et du coup, on l'a mis en pomme chaud et du coup, on fait que chauffer et on rajoute rien.
Okay.
Tout simplement. C'est des recettes de base, hein, de vin chaud classique. Et puis après, on fait avec les épices qu'on a. Et...
Il y a de la bonne soupe. Est-ce qu'il y en a qui veulent de la soupe?
Il y a eu deux endroits où on était qu'une quinzaine, d'autres endroits où on était une cinquantaine. Et en fait, bah, peu importe le nombre, le moment, il est créé et il se passe toujours quelque chose. Et puis, ça fait plaisir à ceux qui font les marchés de prendre un peu plus le temps, parce qu'on n'a pas toujours le temps quand on vend d'échanger avec tout le monde. Donc, ceux qui sont restés à la fin, bah, tu vois, Simon, quand il va finir là, il va avoir le temps de discuter aussi un peu plus avec ses clients en fait. Donc c'est ça qui est cool aussi. Ça parle souvent de recettes. Qu'est-ce que tu fais avec ce légume-là? Moi je le fais comme ça, machin. Enfin.
En 2016, le parc du Massif des Bauges engage un grand chantier participatif d'inventaire des savoirs et pratiques alimentaires et culinaires auprès de ses habitants. Puis, entre 2017 et 2019, le PNR participe à une alliance européenne d'envergure réunissant 14 partenaires de 6 pays alpins. L'ambition de ce projet est alors de valoriser un héritage qui dépasse largement l'assiette. Un patrimoine culturel vivant, mêlant techniques de production traditionnelles, paysages façonnés par l'homme, fêtes et rituels. En révélant ses racines communes, ce travail a fait émerger une véritable identité alpine transnationale.
Oh ben nous, on avait un champignon qu'on connaissait bien. On avait la morille, les bolets,
la chanterelle,
trompette de mort,
cèpe.
Ben le cèpe, c'est du volet, hein.
Ah bon.
Les langues de bœuf.
Jean Davier, Doussard, mai 2016.
Langues de bœuf, on les faisait souvent, on en faisait, s'il y en avait beaucoup, on en faisait au vinaigre.
Oui, ben il y avait Palenny qui ramassait ce qu'ils appellent les chuchettes, tu sais, qui viennent à l'automne en touffe sur les...
Oui,
je sais pas comment ça s'appelle.
Les blancs, là, non?
C'est jaune.
La millière couleur de miel.
Là?
De l'armillière couleur de miel.
Ouais, je sais pas.
La chouchette, ça poussait sur les souches et ça poussait en grosse touffe.
Oui, puis ça pousse en une nuit, ça pousse.
Oui, hein. Oui, t'en fais alors.
Collier de Saint-Michel.
Collier de Saint-Michel.
Ouais, c'est peut-être moins bon.
Non, ça vient tout après, tu sais, à ce moment-là, les champignons.
Oui.
Hein, il y en a qui n'ont peut-être pas trop de parfum, mais t'étais tellement content d'en avoir pour mettre avec une saucisse. Ben, t'étais contente. Hein.
L'automne réchauffe les traditions. Les pratiques culinaires ancestrales, les produits du terroir et les moments de partage autour des fours communaux rassemblent habitants, producteurs et visiteurs. Ces savoir-faire vivants que le parc s'attache à sauvegarder et à valoriser contribuent à un sentiment de fierté d'appartenance et renforcent l'attractivité durable du territoire. Au Four de la Magne à Saint-François-de-Sales, pendant la fête au four, novembre 2025.
Et il y avait toute une tradition, parce que les fours étaient le long des chemins, parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas les routes actuelles, comme maintenant. Alors le four, le chemin qui montait du village aux alpages. Le four était sur le chemin. Et les gens, quand ils faisaient le four, ils apportaient un fagot de bois. Il fallait passer, allumer le four à plusieurs. Ils apportaient un fagot de bois. Ils appelaient ça la marque. Et celui qui voulait faire le four, il mettait son petit fagot devant le four. Et il faisait le four, pain au four, que quand il y en avait un deuxième ou un troisième pour faire ensemble. Parce que la première fournée n'était jamais bien réussie.
Neuf heures et demie.
Oui, 10h15.
Enfin, 10h,
ouais, même 10h.
À 10h, on jette un œil.
Jeter un coup d'œil, ouais.
Faites au four de Frontenay.
En fait, on le démarre à peu près deux jours avant, surtout avec le temps actuel, là, il fait froid. Donc, il faut que la pierre, elle chauffe bien dans la masse. Et puis, après, grosse fournée ce matin, là, pour que vraiment il monte en température. Et en parallèle, on a préparé les pâtons. On avait fait la pâte hier soir, on l'a laissé monter tranquillement dans le pétrin au frais. Et puis les pâtons ce matin, mise en forme, deuxième levée d'une heure et demie à peu près. Et puis, voilà, après là on a fait l'enfournement des pains et Puis maintenant, il n'y a plus qu'à attendre.
C'est pas là,
c'est un truc qui rentrera jamais chez moi.
Il est beau, le pain.
Ça, c'est bien. Il est beau pour le rallye.
Il est beau, il va être beau.
Il est beau.
Il est beau.
Il est
beau.
Il est beau, hein, il a bien. T'es content? Il est beau?
Il est rien vilain.
Il est rien vilain.
Le patrimoine alimentaire s'affirme comme une culture vivante, englobant une mosaïque de savoir-faire techniques, de rituels sociaux et de paysages sculptés par des siècles d'agriculture montagnarde. Pour faire reconnaître mondialement ce modèle de résilience et de transmission des savoir-faire montagnards, le Parc naturel régional du Massif des Bauges a annoncé, en mars 2026, le dépôt de la candidature du patrimoine alimentaire alpin au registre des bonnes pratiques de sauvegarde de l'UNESCO.
Ce patrimoine alimentaire est un pilier de l'identité culturelle des Alpes, donc c'est soutenir cette candidature au registre des bonnes pratiques de l'UNESCO, permet en fait de mettre en lumière et de célébrer ce qui fait la singularité de nos territoires alpins. Cette candidature en fait vise à protéger non des produits, non des lieux, mais des savoirs et des pratiques vivants. Donc c'est des gestes, c'est des techniques, c'est des connaissances traditionnelles, aussi des rituels ou des fêtes. Et donc il s'agit de s'assurer que ces pratiques qui ont façonné les paysages, comme par exemple le pastoralisme, ne disparaissent pas et continuent à être transmises.
Alors, le jour où on faisait le pain, c'était la régalade, hein, parce qu'il était bon, le pain.
Il était tout faux, hein,
tout chaud, puis ça sentait bon.
Puis ça sentait bon.
Mais alors, on gardait toujours un peu de pâte pour faire un dessert qui s'appelait les crêpes.
Table ronde à Bellecombe en Bauges. 2016.
Ça c'était bon. Alors nous, c'est le matin quand on n'avait pas de pain pour déjeuner, eh ben on se travaillait un petit peu comme ça, et puis on y passait à la poêle et puis on y mangeait plutôt pour déjeuner.
Ah, mais bon, du coup, c'est on n'avait pas de
nous,
pain.
Nous, c'était le jour où on faisait le pain.
Ah ben bien sûr.
On faisait les crêpes.
Oui, oui.
Donc c'est on la pâte.
Oui.
Et on faisait des lanières comme ça.
C'était plat alors, des lanières plates.
Et on faisait cuire ça à la poêle dans l'huile.
Et ça gonfle.
Et ça gonflait. Et on y sortait, on saupoudrait un peu de sucre dessus.
Cette candidature au registre de bonnes pratiques de l'UNESCO est une sorte d'outil et de défi pour les Alpes, pour les territoires alpins, pour essayer de sauvegarder ces bonnes pratiques qui existent déjà à travers les Alpes et de relever les défis auxquels nos territoires alpins sont confrontés. Donc, de la France jusqu'à la Slovénie, on retrouve les mêmes défis, le climat, la pente, l'isolement des territoires. Et donc, c'est comment, ensemble, on peut arriver à mieux répondre à ces questions. Parce que les Alpes sont un laboratoire d'idées et de résilience aussi des populations à ce territoire. Ce patrimoine alimentaire alpin permet de renforcer l'attractivité de nos territoires, et notamment à travers le tourisme et mettant en valeur des filières agroalimentaires locales et durables. Ce patrimoine permet en effet de relier donc la biodiversité, la diversité culturelle, l'agriculture et l'alimentation dans un objectif de bien vivre sur nos territoires.
Aura des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur. Le rendez-vous mensuel d'Aura FM, la Fédération des radios associatives d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Si vous êtes curieuse et curieux de découvrir d'autres territoires, rendez-vous sur aurafm.org.